Bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans ce studio de Canal FM pour nous accompagner ensemble durant 90 minutes au Club de la Presse. Nous, ici les débatteurs au studio, les techniciens qui réalisent l'émission, mais aussi et surtout vous qui nous écoutez un peu partout à Lomé, ici sur les antennes de Radio Canal FM, dans la région d'Anéro avec Radio Lumière, à Takpamé avec Radio La Paix, la Voix des Plateaux, la Radio Centrale FM à Sokoré qui fait de même, idem Radio Courtoisie à Dapaon, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, mais également dans le monde entier, les radios numériques, Radio Le Bénin et Bénin Radio, ou toutes autres applications qui nous mettent en contact avec vous. Merci à vous les techniciens, Victor Bekoku, Michel Tominga et Jérôme Dakoucha. Les confrères, dont deux déjà arrivés ici au studio, Harry Miaou Tchanyaou du journal Nouvelle Opinion, bonjour.
Sasse, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. Je souhaite une très belle semaine de travail à tous et à toutes ceux qui nous écoutent.
Très bonne semaine de travail, travail qui ennoblit l'homme et la femme. Rappelle que la devise du Togo commence par travailler pour conforter la liberté et bâtir la patrie. Jacques Laya Jakouti, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Je voudrais également profiter de l'occasion pour saluer les parents, surtout les parents d'élèves. Bientôt, demain, le CPD va démarrer. Je voudrais souhaiter vraiment une très bonne chance à nos enfants et beaucoup de courage aux parents. Prenez soin des enfants. Avec cette saison des pluies, il y a trop de moustiques. Et prenez soin des enfants pour que les enfants ne tombent pas malades dans les salles de classe. Dire également beaucoup de choses aux enseignants et à tout le ministère de l'Éducation nationale, le professeur Kokoroko. Il faut reconnaître qu'ils ont fait vraiment un bon travail, qu'ils continuent toujours à faire un bon travail, parce que depuis un certain temps, nous avons constaté quand même qu'il y a la crème au niveau de l'éducation au Togo. Une fois encore, bonne chance à nos enfants, bonne chance aux parents.
Merci. Nous attendons un troisième confrère qui va nous rejoindre incessamment. Mais comme Jacques a commencé par le dire, au menu aujourd'hui, nous allons parler du démarrage de l'examen du CEPD. C'est le tout premier diplôme scolaire ici au Togo. Chacun doit se rappeler son CEPE pour les aînés, le CEPD pour nous et les plus jeunes. Cette semaine également qui voit le début du pèlerinage sur les lieux saints de l'islam. La première délégation togolaise qui a pris les airs hier, pendant que le recensement électoral dans la zone 3 se retrouve prorogé jusqu'au mercredi prochain. Et nous allons revisiter également le gouvernement qui a élu domicile dans le Grand Cloto le vendredi dernier. Pose la première pierre d'un centre qui se veut à l'avant-garde de l'agriculture au Togo, mais également le gouvernement qui s'était réuni en conseil des ministres dans le Cloto à Adeta, plus précisément. Voilà le menu de cette émission et d'autres informations que nous partagerons avec vous. Commençons par la pensée du jour qui nous enseigne ceci. Quand tu deviens un exemple à suivre, méfie-toi de tes actes, car une erreur de ta part peut entraîner de lourdes conséquences. Encore une fois, comme journaliste, comme parent d'élèves, comme enseignant, comme député, comme maire, M-A-I-R-E, comme ministre, comme chef de gouvernement, comme président de la République, le sage nous dit que quand tu deviens un exemple à suivre, méfie-toi de tes actes, car une erreur de ta part peut entraîner de lourdes conséquences. Cela s'adresse également aux artistes chanteurs, aux cinéastes, aux grandes vedettes du football, du sport en général, de tennis et bien d'autres. Eh bien, c'est parti Didier Kwamiasogba, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM, bonjour aux aînés en studio.
Merci, comme Jacques le disait, c'est demain le démarrage du certificat d'études du premier degré, le CEPD, c'est le tout premier diplôme scolaire. Jacques, dans sa salutation, exhortait déjà les parents à prendre soin de leurs enfants. On va juste continuer à Rimiaou, que c'est la saison des pluies. Il faut que les parents pensent à comment les enfants vont se transporter depuis la maison jusqu'au centre d'examen. Est-ce que c'est les parents qui les déposent? Ou bien est-ce qu'on prend les dispositions pour qu'une moto ou bien un taxi prenne les enfants? C'est en temps de pluie. Donc il faudra faire en sorte que les enfants arrivent à l'heure sur les centres dans le centre d'examen, prévoir un parapluie et un raglan en temps de pluie. Prévoir également de quoi protéger leur carte scolaire, leur carte d'identité, tous les documents, que les enfants ne soient pas mouillés. Et puis pour les enfants qui ne reviendraient pas à midi, ce que les enfants vont manger sur les lieux d'examen jusqu'à revenir l'après-midi. Arimiaou.
Oui, je crois que vous avez posé bien le décor. Mais avant même de me prononcer sur ce qui va se passer demain, je crois que je vais emboîter les pas à Jacques Diakouti pour féliciter tous les acteurs de l'éducation avec en tête le ministre Kokoroko, parce que ils nous ont fait revenir aux habitudes que nous connaissions pour les examens ou pour l'école il y a des dizaines d'années en arrière. Parce que avant, nous savons que l'école démarre en septembre et dans le mois de juin, tout est bouclé. Il fut des époques où on ne sait plus quand est-ce qu'on commence nos cours et quand est-ce qu'on les finit. Il y a des rallonges, tantôt c'est des grèves. La stabilité est revenue dans la maison. Et je crois qu'il faut faire porter ce chapeau d'abord au ministre, mais au gouvernement et ensuite aux parents d'élèves et les enseignants que je voudrais ici féliciter et encourager et dire que le cachet qu'ils ont imprimé pour cette année, pour l'éducation, ce cachet va droit dans le cœur de tous les Togolais, parce que le socle du développement de toute nation, c'est l'éducation. Chapeau à vous, chers enseignants, chapeau à vous, monsieur le ministre, et à tous ceux qui sont au gouvernement et qui sont concernés par ce dossier de scolaire. Maintenant, pour l'examen, comme vous venez de le dire, il a encore été dit d'ailleurs aux enfants de prévoir des parapluies. Mais tout revient à chaque parent, parce que les enfants qui vont passer le CEP D, c'est des petits, c'est des jeunes. Donc il faut que les parents prennent le soin eux-mêmes de les amener, quand c'est à une distance, de chercher une moto ou pourquoi pas un taxi pour les déposer. Je parle de Lomé, mais dans les villages, il faut que les parents eux-mêmes tiennent les enfants qui les amènent et qu'ils prennent toutes les dispositions pour ceux qui ne vont pas rentrer et qui vont revenir à la maison carrément dans la soirée, pour que les enfants mangent normalement et qu'ils aient tout le nécessaire qu'il faut pour pouvoir affronter les épreuves du premier diplôme au Togo de toutes les façons. Bonne chance à tous les enfants, beaucoup de courage à nous, parents.
Merci Didier, juste compléter en rappelant aux jeunes futurs certifiés de prévoir, de bien préparer leur carte d'identité ce soir, prévoir au moins deux stylos, pour ne pas dire deux bics, le crayon, la gomme, tous les instruments de géométrie, peut-être également un sous-main, ils vont bien dormir ce soir, et surtout que les jeunes ne soient pas tentés par la tricherie. La semaine dernière, le confrère L'Union avait fait un dossier complet sur la tricherie. Il faut demander à nos jeunes futurs certifiés d'être sains d'esprit, parce que s'ils sont tentés par la tricherie au CPD, ils risquent d'être tricheurs toute leur vie. Et quand ils seront peut-être hommes politiques, hommes publics demain, ils seront tentés par la tricherie. Et si on leur demandait d'organiser des élections, ils pourraient également être tentés de tricher, de voler, de changer les donnes. Donc il faut que les jeunes se préparent à être la bonne relève du Togo demain.
Oui, naturellement, l'examen du CPD, ça reste Ça reste un examen où il y a beaucoup souvent de palpitations parce que en réalité c'est la véritable première fois que les élèves, enfin que nos écoliers, parce que c'est comme ça il faut les appeler, abordent véritablement un examen d'état. Et très souvent il y a beaucoup de supputations autour, mais je crois que les jeunes que nous avons aujourd'hui, les élèves aujourd'hui, sont souvent très préparés avec des examens blancs organisés donc très souvent par les inspections, par les directions régionales de l'éducation. Et je pense que les enseignants aussi prennent souvent le soin de répéter tout ce que tu viens de dire tout à l'heure aux élèves. Moi, je crois que dont tu parlais, c'est en classe de CM2 que j'en ai entendu parler une première fois, parce qu'on nous avait véritablement demandé d'en avoir pour ranger un certain nombre de documents dedans, et les ensembles géométriques pour la plupart, pour des gens dans les villages qui n'avaient pas les moyens, c'est généralement en classe de CM2 seulement que les gens en ont souvent, et on leur demande d'apprêter tout ça pour le jour d'examen. Et je pense véritablement que toutes ces dispositions doivent être prises, et c'est assez fondamental que, je pense, les épreuves au CPD sont souvent généralement abordables, et donc nos enfants, nos frères ne doivent pas être tentés par la tricherie. S'ils ont véritablement appris, je pense que il y a une démarche actuellement dans le système éducatif togolais, c'est de ne pas former les écoliers, les élèves pour qu'ils échouent, mais c'est de les former pour qu'ils réussissent afin de choisir ce qu'ils doivent faire dans le futur. Donc je ne crois pas qu'il y aurait une volonté de demander une épreuve qui n'est pas du niveau de ces écoliers-là. Donc s'ils ont véritablement appris, il n'y a même pas de crainte à avoir. Demain, ils aborderont de façon assez simple ces examens, ils réussiront tranquillement.
Merci. Chacun se rappelle avec une certaine émotion son premier jour d'examen du CEPD. CEPE pour les aînés, CEPD pour nous. Mais nous sommes le 12 juin, au plan mondial, c'est également la journée mondiale décrétée contre le travail des enfants. Oui, Jacques, il y a aussi de ces enfants qui ne sont pas à l'école, mais qu'on exploite dans les ateliers, dans les champs, dans les manufactures, dans les usines, à la maison, un peu partout. Ils sont privés d'école, ils sont exploités. Au plan mondial, l'Organisation mondiale du travail estime à autour de 180 millions de par le monde ces enfants qui sont privés de jeunesse, d'enfance et qui travaillent très tôt. Et l'OIT, c'est notre compatriote Gilbert Fossou Humbo. Laïa, Humbo a du travail à faire pour assainir ce milieu, humaniser non seulement le monde du travail des enfants, mais le monde du travail en général.
Je crois que la responsabilité au niveau effectivement du travail des enfants incombe d'abord à nous les parents. Parce que si nous éduquons bien nos enfants, nous essayons d'encadrer bien nos enfants, je ne pense pas que quelqu'un d'autre puisse exploiter nos enfants dans les champs, dans les lieux qu'on ne peut même pas fréquenter. Mm-hmm. Parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, vous n'avez pas les moyens, cessez de fabriquer les enfants. Si vous savez que vous allez mettre un enfant au monde, vous n'allez pas prendre soin de cet enfant, éduquer cet enfant, encadrer cet enfant-là, vaut mieux de ne pas aller vers une femme. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains, excusez-moi le terme, il y a des irresponsables. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, vous allez les voir, ils ne veulent pas rester seul avec une femme. C'est-à-dire que il fabrique des enfants un peu partout. Ouais. Et il laisse ces enfants-là à la merci des femmes. Et les femmes-là, après, ont des problèmes. Ce n'est pas une joie de voir un enfant aller travailler. Vous avez cité, par exemple, les ateliers. Mm-hmm. Vous avez cité également, vous allez voir certains maçons qui exploitent également ces enfants-là.
Sur des chantiers.
Sur des chantiers. Ouais, ça, d'abord, il faut sensibiliser les parents. Et l'autre aspect, il faut également, au niveau effectivement de certaines localités, sensibiliser les chefs traditionnels et également les CDQ et autres Parce qu'il y a affaire de sorcellerie ici, dans certains villages. On dit, bon, telle maman a eu tel enfant, il y a ceci, ben, on renvoie les enfants là du village. Et ces enfants-là commencent par errer un peu partout. Et ce qui est encore pipi, quand vous sortez ici à Canal FM, vous traversez le vent là qui va vers l'Onato, vous allez vers Décon, il y a trop d'enfants qui errent ici, également à Lomé. Il y en a trop. Et vous voyez, donc, et moi, j'ai surpris un jour quelqu'un. Vous voyez au niveau de Décon. Le gars, il est assis quelque part. Et tous les enfants que vous voyez là, au niveau de Décon qui commencent par commander, c'est lui qui les contrôle. Et là, dit quand les enfants là vont, ils prennent de l'argent, ils reviennent vers lui pour lui faire les, pour lui rendre les comptes. Et après, ils donnent également quelque chose aux enfants là, ils s'en vont. Je crois que ça, c'est de l'irresponsabilité. Il faudrait que l'État puisse sévir à ce niveau. Et surtout le ministère, je crois, c'est Affaires sociales.
L'action sociale.
Action sociale, justement.
La promotion de la femme.
De la femme. Il faudrait que, c'est Madame Anakoma, je crois.
Oui.
Il faudrait que Madame, vous fassiez quelque chose pour ces enfants. Et l'autre aspect, vous allez voir que la plupart de ces enfants sont exploités également sexuellement.
Oui.
Des mineurs qu'on exploite. Vous voyez? Et vous allez, l'autre aspect, vous allez voir aujourd'hui des folles qui ont également des enfants. Des folles qui sont enceintes. Il faudrait, c'est pourquoi il dit, la responsabilité incombe d'abord à nous les êtres humains. Un homme normal qui va enceinter une folle, et cette folle-là a un enfant qui erre également. Et cet enfant-là, lorsque les gens le trouvent, les gens vont aller quelque part exploiter
Merci
cet enfant.
Merci Jacques pour tous ces détails-là, la responsabilité des parents que nous sommes. Notre foi nous enseigne qu'un enfant est d'abord un don de Dieu. Vous savez, il y a des gens, ils sont tellement riches, ils sont tellement puissants, mais ils parcourent le monde pour avoir ne serait-ce qu'un enfant qu'ils ou qu'elles n'ont pas. Alors nous, à qui Dieu a fait cette grâce, comportons-nous en responsables, occupons-nous des enfants. Selon notre bourse, faisons les enfants à la taille de nos ressources. L'interpellation donc à ses parents et au-delà à la société, les chefs, le gouvernement, dans le ministère de l'Action sociale. Mais il y a aussi les enfants orphelins, les enfants dont les parents sont au chômage, qui ont perdu leur travail. C'est ça la solidarité. Je disais tantôt qu'au plan mondial, le directeur de l'OIT, c'est un compatriote, notre cher Gilbert Fosu-Ombo, à qui nous souhaitons vraiment d'impacter son poste et de marquer ses empreintes. Il y a aussi un Togolais qui postule à l'Organisation mondiale des douanes. C'est Philippe Kokou-Chaudier. Il semble que c'est ce courant, ce mois de juin, que l'élection devra se faire.
Le 24
juin prochain. En bon Togolais, en bon Africain, nous souhaitons bonne chance à Philippe Kokou-Chaudier. Mais revenons donc à la journée contre le travail des enfants et le travail en général, avec la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, qui a rendu public son rapport d'activité 2022. La CNDH qui a annoncé avoir effectué des visites de terrain dans le cadre de la promotion et la protection des droits humains, ainsi que la prévention de la torture. Le rapport met l'accent, par exemple, sur le non-respect des normes de sécurité et de santé dans les entreprises. Ça, c'est important. Le non-respect des normes de sécurité et santé dans les entreprises. Le rapport cite nommément certaines entreprises. Je vous laisse le temps de découvrir le rapport de la CNDH et ces entreprises qui ont été épinglées. Mais la CNDH parle également de détentions arbitraires un peu partout dans le pays. Et toujours en lien avec le travail, c'est les footballeurs togolais, dont ceux du club mythique de Semasi qui a défrayé la chronique la semaine dernière. Le championnat D1 vient d'être terminé. Semasi n'a pas tellement brillé sur le terrain, mais plutôt dans les faits divers, avec des joueurs de Semasi qui qui n'étaient pas payés et qui étaient allés réclamer leur indemnité. Je n'ose pas parler de salaire. Et cela leur a valu une arrestation, détention, avant qu'ils soient libérés. Mais le mal est déjà fait. C'est Massy, si flamboyant, si le terrain y est, c'est Massy plutôt qui s'illustre dans le non-respect des droits de ces joueurs, des joueurs à qui le club ne paie pas leur indemnité, et ces joueurs qui ont été victimes de détentions arbitraires, comme la CNDH l'aurait dit. Ari Miaou.
Oui, bon, moi, je suis un fan de ces Massy. Et je ne crois pas que c'est parce que je suis fan que je vais manquer de dire ce que j'ai eu comme sentiment. Franchement, quand j'ai appris ce qui était arrivé à ces joueurs-là, j'ai dit que mais c'est une déchéance, parce que le staff ou les patrons, ceux qui tiennent le club, ont failli. Ils ont échoué et ça fait une honte totale. Vous avez dit que ces Massy n'a pas brillé sur le terrain dans le championnat. Et voilà le folklore que, au lieu de se ressaisir et chercher à ressouder les coups et faire du bon travail dans l'avenir, moi, c'est une grande honte que les gens ont servi par rapport à tout ce que nous avons vu. Voilà des joueurs qu'on a pris du Nigeria, qui sont venus se mouiller le maillot, accompagner et faire tout ce qu'ils peuvent, et qu'on n'a pas payé. Et qui réclament tout simplement qu'on leur paye leur dû. Maintenant, les joueurs se transportent à la mairie. D'aucuns disent que pourquoi est-ce que ils se sont retrouvés dans une institution, disons la mairie, alors que celui qui devrait payer, il travaille. Et c'est là qu'il a toujours payé. Le club a des bureaux. On aurait pu venir payer régulièrement au bureau, que l'incident se serait produit dans le bureau. Et comme celui qui paye, le trésorier agent, est habitué à payer dans son service
à la mairie.
Tchao Djo 1, c'est la raison fondamentale qui a poussé les joueurs à le retrouver là-bas. Il était là, il simulait ne pas être là, alors qu'il était sur les lieux. Moi, je crois qu'il n'y a pas de raison que les gens, dans ce siècle où nous sommes, que les gens se comportent comme ça, qu'on mette des menottes à des joueurs qui n'ont pas volé et qui ont presté et qui réclament leurs droits, leurs dus, et que finalement, des gens se comportent comme ce que nous avons vu. Moi, je crois que les gens doivent descendre sur terre et trouver les bonnes formules pour que le fair play règne un peu partout. Vous n'avez pas l'argent, vous expliquez clairement que bon, attendez, on va trouver la formule, mais faire la tête dure jusqu'à contraindre les pauvres joueurs à se comporter comme ce que nous avons vu. Ce n'est pas une bonne chose. Ça ne ressemble pas à ces Massy. Même s'ils sont libérés, c'est mal ce qui s'est passé.
La Fédération Togolaise de football demande des explications à ces Massy sur cet incident, lequel ces Massy a été déjà épinglé par la FTF, la FTF qui somme ces Massy de dédommager un jeune joueur que le club avait licencié arbitrairement. Pauvre ces Massy, sont tentés de dire, ben Didier Assoba, ces Massy qui vit ces mésaventures, mais sûrement il y a beaucoup d'autres clubs qui connaîtraient des situations similaires ou de difficultés de trésorerie à l'endroit soit de leur entraîneur ou bien de leur joueur, dans le contexte du football togolais qui veut se professionnaliser. Et la fédération et le ministère des sports ont vraiment du pain sur la planche pour identifier tous ces problèmes, les régler pour que le football togolais reparte vraiment de l'avant.
Mais comme quelqu'un dirait, la plupart des secteurs d'activité au Togo ont besoin d'avoir des états généraux, si vous le permettrez, parce que le football togolais tel qu'il est déroulé actuellement, ou du moins depuis quelques années, ça n'honore pas le pays, justement. Et c'est certainement pour cette raison qu'on a des difficultés à avoir des résultats au plus haut niveau, notamment avec les éperviers qui représentent tout le pays. Parce que si la base n'est pas solide, si le fondement n'est pas solide, je pense que ça va se réjaillir naturellement sur sur l'équipe nationale, et c'est généralement ce qui se fait. Et nous, on n'a pas un championnat bien organisé, bien solide. On a des clubs qui se résument généralement à une seule personne. Et le football togolais a véritablement besoin d'un regard plus sérieux de la part justement du ministère des Sports pour qu'on veille, pour qu'on veille surtout au respect d'abord des textes, qui régissent le transfert des joueurs. Voilà, c'est souvent, quand vous voyez généralement les classements, quand finit le championnat, il y a le classement des résultats obtenus sur le terrain, mais il y a des classements qui interviennent après parce que tel club va porter plainte, parce que tel joueur aurait comment joué ici avant ou après il joue ici. Donc il y a tellement de ramifications et des fois même des combines pour des fois volontairement reléguer certains clubs et volontairement faire passer certains clubs. Et vous voyez, c'est souvent ce qui crée la zizanie dans le football. Il y a beaucoup de clubs qui ne payent pas les joueurs. Qui ne payent pas les joueurs. Certains joueurs n'ont pas le courage, certaines fois, d'aller porter plainte devant la justice parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas les moyens pour prendre les avocats et tout ça. Ou peut-être que le propriétaire du club est un tout-puissant, bien placé et dans le grand parti. Et donc, généralement, les gens ont peur de poser un certain nombre d'actes. Et je salue le courage du jeune Dogba Thiès qui a quand même pris son courage à deux mains pour porter plainte afin d'avoir finalement gain de cause sur ce licenciement arbitraire-là où Semassi devrait lui payer aujourd'hui 3 millions. Donc, c'est comme ça dans la plupart des clubs. Et je pense qu'il faut véritablement, si nous voulons aller à un championnat professionnel, comme il a dit, on a créé deux ligues professionnelles. Si on veut véritablement démarrer ces ligues-là, il faut véritablement qu'on inspecte tous les clubs afin d'avoir véritablement quels sont les clubs qui sont prêts véritablement à faire un championnat professionnel au Togo. Et tous les clubs qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas de structure réelle, qui n'ont pas de bureau, qui n'ont pas de moyens pour faire un championnat professionnel, qu'on les laisse tranquillement là où ils sont et qu'on continue le football au Togo.
Merci, mais le championnat D1 a donné son verdict à ce qu'au sacré champion depuis 4-5 ans. On peut dire que la région de la Cara, notamment, oui, Asco et ASK, c'est eux qui tiennent maintenant le haut du pavé. Les grands clubs mythiques comme Semassi,
Akaza,
Étoile Filante, et dans une certaine mesure même, Fouadan de Dapaon sont relégués très 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 loin derrière. Jacques, je crois savoir que Fouadan joue en deuxième division, n'est-ce pas?
Oui, vous savez ça.
Oui, Fouadan et Doumbé
de Mango, bien sûr.
Qui vraiment tenaient la dragée haute il y a quelques années.
Vous savez, il faudrait qu'on essaie de dépolitiser le football togolais. Si on arrive à le faire, je vous dis que le Togo va décoller.
Dépolitiser, plutôt professionnaliser.
Non, le mot a tout son sens.
Dépolitiser, mais plutôt professionnaliser véritablement. Bon,
quand on arrivera à dépolitiser, on va verra
comment professionnaliser, je vous dis. Mais ce qui s'est passé à ce côté, avec Semassi de ce côté, c'est quand même aberrant. Mais je voudrais inviter le ministre de la Sécurité à enquêter sur ceux qui ont menotté ces deux jeunes-là. Mais ça n'a pas de sens.
Oui.
C'est pas parce que vous avez la force, quelqu'un vient réclamer quelque chose, et puis regardez, les photos ont fait le tour des réseaux sociaux. Et puis c'est pas des Togolais. Hein.
Des Nigériens,
c'est pas normal pour notre pays. Il faudrait que le ministre de la Sécurité diligente une enquête pour voir ceux qui ont fait ça. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Or, il a été question qu'ils ont fait le tapage. Mais ça, on nous a dit que ventre enflammé n'a point d'oreille. Mais c'est normal. S'ils font du tapage, est-ce qu'ils ont pris les coucoupes? Est-ce qu'ils ont pris les couteaux sur les gens? Les gens, c'est des étrangers. Ils doivent payer leur loyer. Vous comprenez? Ils ne sont pas... Ce côté-là, ce n'est pas chez eux.
La saison est finie.
Ils doivent payer le loyer. C'est normal. Donc, les gens reclament votre... Et puis, vous les menottez. Et on prend la photo. Et les gens sont fiers de partager cela. Moi, je crois que moi, j'interpelle ce matin le ministre de la Sécurité à enquêter sur celui qui a fait ça. Ceux qui ont menotté ces deux jeunes-là, il faut qu'on puisse les mettre aux arrêts. Parce que c'est pas normal.
Je pense que certaines personnes ne se rendent pas compte que nous sommes en 2023.
C'est pas normal.
Et que les droits humains sont une réalité vivante. Et que nous sommes à l'ère de la technologie.
Non, c'est pas bien.
Ce que vous faites, un acte que vous posez même dans votre maison, de se retrouver sur la place publique.
Ah oui.
C'est vraiment assez grave.
Non, non mais je crois que le problème se trouve au niveau du trésorier adjoint. Parce que dans la configuration du bureau, il y a un trésorier. Je crois que, en réalité, si chacun jouait son rôle, l'affaire ne se serait pas produite près du trésorier adjoint. Quand il a son patron, qui travaille à la mairie. Et donc, c'est lui, je crois qu'il est tellement zélé, qu'il ne veut écouter personne, qu'il ne veut pas aller à la négociation quand ils sont dans l'incapacité de le faire. Et croyant, avec ce que Diakouti dit, c'est des gens qui croient. Nous avons la force, on peut opérer comme on veut, quand et pour, contre n'importe qui. C'est pour cela qu'on peut aller faire cette opération sale qui avilit l'image de notre pays. Parce que quoi qu'il arrive, ce qui s'est passé avec ces joueurs-là n'honore pas le Togo, pas seulement ces matchs, mais notre pays dans son ensemble.
Mais merci. Ça, comment vous pouvez comprendre,
oui, Jacques,
sur ce que mon confrère Aline Yao, qu'ils sont allés à la mairie. Est-ce que ce Massi n'a pas un siège?
C'est ce que je disais.
Mais pourquoi c'est à la mairie que les joueurs là vont
aller? C'est là-bas, ils payent l'habitude.
Mais c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Donc je crois que il faudrait que la ministre des Sports et le président de la Fédération Togolaise de football essayent de revoir ce qui se passe dans notre football. Hier, j'ai suivi la fin du championnat au Niger. Vous savez combien le vainqueur a eu?
Non, dites-nous.
20 millions.
De francs CFA.
CFA. Que le vainqueur a eu.
Eh bien, nous allons chercher à savoir combien Asco aura obtenu comme champion
j'étais,
le NATO DE.
Mais je me rappelle que ici, entre temps, un joueur, on lui a donné quoi? C'est une moto qu'on l'a remis.
Le meilleur buteur.
Le meilleur buteur de c'est une moto.
Richard, une moto.
Ouais, mais je crois que. Et puis l'autre aspect, ça, c'est pas si vous. Quand nos joueurs, là, au niveau des terrains, sortez un peu, vous allez voir. Moi, je m'amuse souvent les dimanches après-midi de sortir pour voir un peu dans nos stades. Vous allez voir que souvent les joueurs là sont transportés dans les tricycles. Les tricycles là. C'est dans ça qu'on les transporte. Et qu'est-ce qu'ils tiennent en main? C'est le Pio Ouattara. De 25 francs ou bien 50 francs. C'est ça. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas demander à ces gens-là de donner le meilleur d'eux. Je demande une fois encore au ministre des Sports, le président de la Fédération Togolaise de football, s'il vous plaît, si vous voulez que le Togo aille loin, il est important que vous puissiez mettre les moyens. Mettre les moyens veut dire quoi? Essayez d'aider effectivement ces joueurs. Un joueur qui va, par exemple, sur le terrain affamé, vous voulez qu'il fasse quoi? Il ne peut rien faire.
Merci. Alors, des joueurs de nos clubs qui voyagent pas tricycle, je comprends pourquoi le gouvernement s'est réuni le vendredi à Détat et au menu donc de ce conseil des ministres, deux décrets relatifs au transport routier et à la politique forestière du Togo, de cette décret ont été pris. Et le gouvernement qui a pensé à la régulation de l'exploitation des taxis, taxi-moto et tricycles. Je comprends maintenant pourquoi le gouvernement est allé débattre de ça. C'est sûrement que quelqu'un a soufflé à la PM et au PR que nos équipes voyagent par tricycle. Alors pour revenir au football et terminer, donc chapeau à Gaza. Seulement que nous apprenons par indiscrétion que le coach Abalo Dosset serait en partance, je parle au conditionnel, quand même félicitations à Asco qui est champion D1, la D2 un temps vers la fin, et la D3 également fait son chemin, et dans la D3 zone B, c'est l'Olympique de Vaud qui a été sacré champion dans sa zone, zone 3B. Pendant que l'Asfosa ambitionne d'être sacré champion dans la zone, dans la D3 zone A, si je parle de l'Olympique de Vaud et d'Asco et de l'Asfosa, c'est que ces deux clubs s'informent de la mésaventure de Semasi et comme aussi bien Olympique de Vaud que Asfosa nourrissent l'ambition de monter en D1, il faut vraiment que qu'ils montent de véritables équipes.
D2 d'abord.
Sinon, si mon équipe de Vaud s'invite dans ce
débat-là,
au club de la presse, nous en parlerons. Mais allons sur un sujet de foi avec la première partie des pèlerins togolais qui a quitté le sol pour la Mecque. C'est le quotidien national Togo Presse qui nous en parle ce matin. Une première vague de 342 musulmans a quitté Lomé vendredi dernier. Au total, c'est autour de 2400 et quelques pèlerins que le Togo dépêchera à la Mecque cette année. Arimiaou?
Oui, c'est vérifié. Hier, moi-même, j'étais aussi allé pour vivre ce qui se fait. Mm-hmm. Les pèlerins sont partis en toute quiétude et tout s'est bien passé. Aujourd'hui, nous avons des appels depuis la Mecque. Les gens sont bien arrivés et mm-hmm. les autres se préparent à emboîter les pas. Et je souhaite à tous ces pèlerins-là bonne prière et que toutes les grâces inondent notre pays et que tous les musulmans puissent, par la grâce de Dieu, avoir les moyens de pouvoir honorer à ces piliers de notre religion.
Parce que Arimiaou, pèlerinage sur les liens saints de l'islam, ce n'est pas physiquement une partie de plaisir.
Non, pas du tout. Parce que il faut de l'endurance. Effectivement, c'est un pèlerinage qui veut qu'on soit très endurant. Et physiquement, si vous ne tenez pas, j'avoue, ma foi, que ça va être très difficile. Mmh. C'est ce qui fait que certaines personnes qui ont pris de l'âge, très souvent sur les lieux, les gens y vont, mais ne reviennent plus jamais. Et mmh. parce que musulmans, vous mourrez, on vous enterre automatiquement. Donc, il faut que les gens comptent avec le physique. Et je crois que le gouvernement togolais a pris des dispositions où ils ont limité l'âge à 65. Mmh. Au-delà, je pense qu'au Togo, ça va être très difficile de pouvoir aller au pèlerinage au-delà de 65 ans, sauf des cas exceptionnels.
La première vague a été accompagnée à l'aéroport par le ministre d'État, Payade Aboukwesi, qui préside la commission Hajj cette année 2023. Il leur a transmis les vœux de bon pèlerinage de toute la nation. Il leur a également demandé de prier pour eux-mêmes, pour leur famille, mais également pour le pays, le Togo. Jacques, à propos du pèlerinage, il y a un ami auditeur qui m'a vraiment émerveillé. C'est un conducteur de taxi, moto. Mmh. Il habite à Gwezongo, mais il a tout fait pour envoyer sa maman à ce pèlerinage. Bien sûr, ses frères et sœurs l'ont aidé, mais il a contribué grandement. Voilà un conducteur de taxi, moto, qui par reconnaissance filiale envoie sa maman à la Mecque.
Vous savez, nos frères musulmans, il faut vraiment les féliciter. C'est des gens qui sont tellement endurants. Et vous savez, ils ne se préparent pas seulement aujourd'hui, demain, les gens. Hein. Les gens prennent le temps et des années également pour préparer ça. Et je vous raconter, donner un petit témoignage de quelqu'un que je connais à Abidjan. Vous savez, le monsieur, il a commencé à cotiser au moins pendant 5 ans. Et c'est la 6e année qu'il a envoyé sa maman à la Mecque. Malheureusement, la maman est arrivée au niveau de l'aéroport, dans la salle d'embarquement. Je ne sais pas si c'est l'émotion. Le temps de prendre les escaliers pour monter dans l'avion, elle a fait un arrêt cardiaque. Elle est décédée. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que quelque part, c'est des gens, ils prennent le temps. Ça, il faut le reconnaître. J'ai des frères, des oncles qui sont des musulmans, je les connais, je sais comment ça se passe. Il faut reconnaître que c'est des gens, ils prennent le temps de cotiser. Ils cotisent un peu. Après, quand ça arrive le moment de faire les prêts, ils le font et ils s'en vont. Donc je crois qu'avec ça, il faut reconnaître que Dieu voyant effectivement l'acte que les gens sont en train de poser, il regarde le cœur et Dieu répond effectivement aux besoins des uns des autres par rapport à la disponibilité de ce qu'ils sont en train de faire. Le gouvernement aussi aide effectivement les musulmans à effectuer ce pèlerinage, c'est une très bonne chose. Et vous savez, l'addiction là, seulement, simplement pour les musulmans qui y vont, mais c'est pour nous tous. Parce que quand ils vont là-bas, ils prient également pour nous.
Merci. Donc je crois que c'est pas seulement physiquement endurant, mais financièrement.
Attention.
Alors, cette année, chaque pèlerin doit débourser autour de combien? Je crois 2000 quelque chose.
Disons, arrondissons à 2 500 000.
2 500 000 pour aller recevoir les grâces d'Allah. Cela en vaut la peine. Mais vraiment, mon auditeur du Club La Presse, Abdou, chapeau. Si tu as pu envoyer ta maman à la Mecque, c'est que toi-même tu pourras effectuer ce pèlerinage-là dans les années à venir.
Je crois que les pèlerins devraient mobiliser cette année 3 500 000.
Cela en vaut la peine. Ouais. En fait, nous avons un
Je ne suis pas candidat.
Non, non, pas cette année, mais quelqu'un qui a fait quand même le pèlerinage.
Bien sûr.
El Hadji.
El Hadji Arimiao Tchanyao.
N'est-ce pas?
Oui.
Merci Didier Assokba. Le communiqué de la CENI est sorti hier. Et disons que nous nous y attendions un peu. Comme elle a la zone 1 et pour la zone 2, la CENI vient de poser de 48 heures le recensement électoral dans la zone 3.
Oui, effectivement, on sait que le recensement... Bon, pour la zone 2 et la zone 3, il n'y a pas tellement de difficultés, mais il y a généralement un peu d'engouement au niveau des populations. Vous savez que c'est, comme on a dû s'en rendre compte finalement, c'est que ce n'est pas une révision électorale, mais c'est un recensement électoral.
Intégral.
C'est un recensement intégral parce qu'on a rasé l'ancien fichier électoral. On est en train de reconstituer carrément la base de données de fichier électoral et donc tout le monde... Tous ceux qui étaient dans le fichier, ou tous ceux qui devraient intégrer le fichier, donc aujourd'hui s'inscrivent. Et donc, naturellement, il y a de la mobilisation, de l'engouement un peu partout dans toutes les zones. Et donc, ça va de soi que la CENI, qui a lancé dans la zone 3 les opérations il y a 8 jours, qui finissent naturellement aujourd'hui, a dû décider, pour se conformer à ce qui s'est passé dans les autres zones, de prolonger de 2 jours pour permettre à ceux qui n'avait pas eu la possibilité jusque-là de se faire enrôler, de le faire d'ici à mercredi pour donc avoir le privilège, le droit et d'avoir la carte d'électeur pour s'exprimer le moment venu. Et donc, c'est dans l'ordre normal des choses. On va voir à la fin des opérations dans la zone 3 quelle va être la conduite à tenir par la CENI qui est appelée de toutes parts, un peu partout avec les appels à n'a point finir de revenir dans la zone 1 pour permettre aux gens qui sont restés sur le carreau, au vu au sud de tout le monde, de pouvoir être enrôlés.
Encore. Merci. Je disais, le renseignement avait soulevé tellement de polémiques dans la zone 1. Jusqu'à présent, des organisations politiques comme la DMP, comme l'ANC et bien d'autres continuent à réclamer que la CENI revienne dans la zone 1 pour offrir une session de rattrapage à ceux qui n'avaient pas pu se faire enrôler. Pour la zone 2 et 3, j'avoue que, à ma connaissance, il y a moins de polémiques. Seulement, Liberté écrit encore ce matin, Liberté parle de l'élément et le vote des mineurs, l'enrichissement des mineurs dans les zones 2 et 3. La semaine dernière, je crois que l'ANC avait élevé de telles accusations. La DMP aussi. Bon, on verra à la fin ce qu'il en a. Mais Jacques Jacouti, si la CENI a été obligée de proroger le renseignement dans la zone 2 et dans la zone 3, c'est au minimum un aveu de mauvaise organisation. Soit la CENI n'avait pas bien appréhendé la zone avant de décider que l'opération se fasse dans une dizaine de jours, ou bien les difficultés, les manquements dont nous nous plaignons, la CENI n'a pas été toujours prompte de les résoudre. C'est pourquoi elle se voit contrainte de proroger à chaque fois.
Non, je crois que vous savez, la CENI, c'est comme une femme qui a mis deux jumeaux au monde. La CENI ne peut jamais se coucher sur son ventre. Au fait, c'est ça le problème. Elle dit que ce qui s'est passé dans la zone ici, que nous avons vécu, la zone 2, il faudrait que la CENI prolonge également parce que les gens risquent d'attaquer la CENI. Pourquoi vous avez fait ceci, vous n'avez pas fait ça de l'autre côté? Mm-hmm. Moi, il faut comprendre ça comme ça. C'est-à-dire que c'est pour respecter au fait l'équité autant pour moi par rapport à ce que les autres zones ont vécu. Et quand vous prenez par exemple la zone 3 dont vous parliez tout à l'heure, vous prenez par exemple chez nous. Vous savez que la situation est un peu difficile dans cette zone-là. Un peu difficile, les gens ont souvent peur de pouvoir s'approcher.
Et vous savez que des menaces des terroristes, des intégristes.
Justement, pour le moment, l'état d'urgence n'est pas levé. Donc vous voyez que les gens ont souvent peur de ces genres de rassemblements. Donc il faut prendre vraiment le temps de pouvoir sensibiliser les gens. Parler aux gens de ne pas avoir peur de sortir pour aller pour se faire recenser. Donc vous voyez que c'est pas du tout aisé. Donc c'est en ça que je félicite vraiment tous les cadres du milieu, avec à la tête le ministre de la Sécurité, qui sont actuellement dans ce milieu-là pour aider. Parce que vous savez, dès qu'on voit par exemple le ministre de la Sécurité Yark, on sait que bon, on a confiance. On s'est dit, comme c'est lui, si on sort, on n'aura pas de problème. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout aisé dans cette zone-là pour que les gens aillent se faire enrôler. Et l'autre aspect, vous avez parlé tout à l'heure de l'enregistrement des mineurs. Oui. Je crois que si ceux qui ont sorti ce communiqué ont effectivement les preuves,
l'ANC et l'ANC, le DMP.
Voilà, s'ils ont les preuves, je sais que lors effectivement de l'épuration au niveau de la CENI, sera obligée de sortir ces
noms. Du contentieux, voilà, sur les listes
électorales. Ça, c'est important. Depuis ce matin, nous avons vu également des choses circuler sur les réseaux sociaux concernant également Dangpen, où on dit que bon, c'est comme ça, il y a un maire qui est en train d'amener les gens vers le Ghana pour se faire recenser au niveau
du Ghana
pour se faire recenser au niveau de Dangpen. Donc, si tout cela s'est avéré, moi, je crois qu'au niveau de la CENI, lors de la compilation, on va sortir tous ces noms-là. Donc, dès que les gens ont des preuves, maintenez vos preuves. Et lorsque, effectivement, la CENI va commencer la publication, effectivement, de ces noms-là, ça, c'est du
donc,
droit.
C'est très important ce que tu dis là. Ouais. Si des gens portent des accusations, il faut que les gens se donnent la peine
de
rassembler du matériel pour étayer,
appuyer
et là, les accusations.
Ils auront
et comme il y aura une phase de contentieux sur les listes électorales, à la justice, si on apporte des preuves irréfutables, le juge ne pourra que dire le droit. En tout cas, je présume.
Ah oui,
Arignon d'abord et puis Didier.
Non, bon, moi je voulais dire que nous sommes au Togo, on connaît comment les choses se passent. Et vous avez vu, on a fait le premier tour de ce recensement dans la zone numéro 1, ici. On n'a pas entendu parler de ces histoires d'enrôlement de mineurs. Il y avait même, peut-être que vous allez bien lire ce que c'est dit, on dit qu'il y a eu des étrangers qui ont été enrôlés, des mineurs. Je crois que dans la zone 1, il n'y a pas eu ce problème.
Il y en avait un peu, même au quartier Hanoukopé ici.
Oui, donc ça a été évoqué par les mêmes partis.
Oui.
Si les mêmes partis l'évoquent, comme Djakouti l'a dit, je crois qu'il faut qu'une fois en passant, on essaye d'éclairer les Togolais. Parce que ce n'est pas la première fois que nous entendons de ces propos-là quand il s'agit d'aller en l'enrôlement des citoyens. Mm-hmm. Et c'est ça parfois que les gens utilisent pour blanchir des échecs, pour dire nous avions dit qu'il y avait des mineurs qu'on a enrôlés et des étrangers qui avaient été enrôlés. Cette fois-ci, comme Djakouti l'a dit, et comme tu viens de le dire également, que ceux qui ont les informations apportent les preuves. C'est-à-dire, on dit, monsieur tel, voilà sa naissance, voilà la carte d'électeur qui lui a été établie, voilà son âge, il ne mérite pas d'avoir cette carte-là. Monsieur X, c'est un Ghanéen, et voilà sa carte, et sa naissance du Ghana, et voilà ce qu'on est venu lui faire au Togo. Avec ses preuves, je crois que justice ne sera que dite. Mais rester à tenir des discours, comme cela se fait tout le temps, que voilà, on a enrôlé des jeunes, on a enrôlé des mineurs et des étrangers, sans en apporter la preuve, Ça ne va pas être quelque chose qui va être fiable. Ça va ressembler à du folklore. Ça va ressembler aux habitudes que nous connaissons de notre pays. Cette fois-ci, que les gens fassent l'effort d'éclairer les Togolais. Ça permettra à la CENI de se corriger très tôt, mais à liquider le dossier avant que nous allions aux élections. Parce que si on s'en tient au discours et aux propos tels que cela est dit, sans qu'il y ait des preuves, quand on va aller aux élections, et des gens vont perdre, ils vont dire qu'on a maximisé quelque part avec des étrangers et des mineurs.
Oui, Didier, sur ces accusations, ces soupçons ou accusations d'enrôlement d'étrangers, de mineurs qui viennent s'ajouter aux dysfonctionnements, difficultés que nous connaissons déjà.
Moi, je pense fondamentalement que si c'est fait, c'est le mal. Ça veut dire que le mal est déjà fait. Parce que comment ça se passe généralement, les affaires là, et surtout quand on parle de l'épuration de la liste, qu'est-ce qu'on fait généralement à l'issue? C'est que les doublons et tout ça qui sont enlevés. Et rarement, mais ceux qui témoignent pour faire enregistrer, par exemple, ceux qu'on prend comme des mineurs. Mais quand on va enregistrer un mineur, on ne va pas l'enregistrer sous 16 ans ou sous 17 ans. On va l'enregistrer sous 18 ans, sachant pertinemment que la personne qui est enregistrée n'a pas effectivement 18 ans pour voter. Et donc, même les étrangers, quand on parle d'étrangers, ce qu'on parle, ce qu'on dit généralement comme étrangers, c'est des gens aux environs des frontières. Donc, c'est peut-être porte les mêmes noms. Si c'est Kodjo de l'autre côté de la frontière, on ne va pas dire que ça sonne ghanéen. C'est, ça sonne Kodjo du Ghana, Kodjo du Togo. Il n'y a pas une différence de consonance ou de enfin, il n'y a pas une différence dans le nom. Donc, généralement, tout ça, dès que c'est entré dans le fichier, ça va être compliqué que des gens apportent la preuve et qu'on les retire généralement. Et donc, ce que moi, j'aurais préféré, c'est que pour une fois, comme Harry Mignao le dit, on évita ces polémiques en collaborant ensemble entre chaque parti politique, la CENI avec les partis politiques, avec les chefs traditionnels, avec tout le monde, pour que véritablement ce qu'on prend, ce qu'on enregistre, soit véritablement des gens en âge de voter et des gens qui sont véritablement des patriotes avec des preuves à l'appui. Mais si cette collaboration n'avait pas eu lieu en amont, mais dès que les choses rentrent dans le fichier, ça va être des difficultés à enlever et je ne crois pas qu'on pourrait véritablement avoir des preuves de dire que quelqu'un qu'on a enregistré et qui est dans la base comme quelqu'un ayant 18 ans révolu, on va le sortir parce que quelqu'un aurait dit, et généralement c'est sans preuve. Ça ne va pas avoir des preuves parce que on apporte des gens pour sur la base de témoignages et c'est généralement ce qui crée les problèmes au niveau de la constitution du fichier électoral, c'est qu'il y a plus de gens qu'on enregistre sur la base de simples témoignages que de gens qui apportent réellement des preuves, des pièces d'identité, soit de naissance, soit les cartes d'identité ou d'autres documents pour enregistrer. Dès lors que les témoignages pour faire enregistrer des gens seront plus nombreux que les pièces qu'on apporte, je pense qu'on n'aura jamais de preuves pour enlever un certain nombre de personnes dans le fichier.
Mais il n'empêche quand même que ceux qui portent les accusations saisissent la justice avec le minimum de preuves qu'ils auront rassemblées et la justice sera donc au défi de nous situer. Donc, le recensement qui continue, qui aurait dû terminer aujourd'hui, 12 juin, mais qui se retrouve prorogé de 48 heures jusqu'au mercredi. Et on verra si la CENI va écouter les demandeurs et revenir dans la zone 1, mais déjà... on ne connaît toujours pas encore la date des élections qu'on nous a annoncées, les régionales ou les législatives. Oh, nous sommes déjà aujourd'hui le 12 juin. Nous sommes déjà pratiquement dans la moitié de l'année. Mais ni le gouvernement ni la CENI nous disent encore les dates envisagées ou prévisibles pour les élections. Mais déjà dans ce contexte, ici et là, on entend encore des partis politiques se plaindre des difficultés qui leur sont faites de se retrouver. On connaît un peu la musique dans les rangs de l'ANC et de la DMK, de la DMP aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est Liberté qui parle de l'impossible rencontre entre les opposants et la société civile à Brodahomey. Il y a déjà quelques jours, sur l'initiative des FDR, certains partis politiques et associations devraient se rencontrer, devraient se retrouver à Brodahomey pour une réflexion. La réunion a été interdite. Et dans un communiqué sorti vendredi dernier, les FDR ont informé que cette fois-ci, ils ont bien écrit au ministre d'État pour les informer de cette initiative de rencontre. Aucune réponse ne leur a été adressée, sauf que le lieu de la rencontre, c'est encore la force publique qui les en a empêchés. Voilà le contexte dans lequel le recensement prend fin et que nous allons entrer incessamment en campagne électorale quand la CENI ou le gouvernement auront annoncé les dates. Oui, Harry Mignao, tu manifestes l'intérêt de parler ?
Non, bon, moi je voulais dire que la guéguerre d'enrôlement d'étrangers, de mineurs, tout ça là, cette guéguerre vient peut-être parce que les gens croient encore aux histoires de fief. Moi je crois qu'aujourd'hui le pays évolue, la démocratie, elle est en train de s'enraciner dans le pays. Que qui dit aux gens, comme Didier a dit que il serait difficile de détecter ou d'apporter les preuves de cela, qu'on dit être étranger et qu'on a malheureusement
étranger ou mineur.
Mineur enrôlé, qui dit que ceux-là ne vont pas voter, voteront à tel ou tel parti politique ou à telle structure. Personne ne le sait. Parce que les gens voteront sur la base de ce que les gens viendront leur servir. Peut-être que quelqu'un peut faire la fraude, croyant que celui à qui il fait donner la carte, insidieusement, va venir voter pour lui.
Mais c'est le principe même de la fraude oui. Que nous récusons.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Vous avez commencé cette émission en souhaitant vivement que les petits-enfants du CPD ne soient pas tentés par la tricherie ou la fraude. Mmh. Donc,
j'ai dit, ça,
nous répétons la même chose.
Non, oui, je ne dis pas, je n'encourage pas ça, mais j'ai dit que l'idée qu'il y a derrière, puisque Didier dit qu'il n'y aura rien à faire. Que non,
ce que je dis, c'est sur le principe. Par exemple, prenons l'exemple de la frontière ici à Plaou. Quelqu'un sort de à Plaou, il vient à Kodiviakopé pour se faire enrôler. Est-ce que les gens de Kodiviakopé ont des noms différents des gens d'Aplaou?
Non, ce n'est pas une histoire de nom.
Non, oui, je dis.
Il y a des gens qui ont informé les partis là.
Non,
qu'ils prennent.
Ok, pardon, sur le principe. De toute façon, comme nous l'avons dit, hein, ceux qui portent les accusations
doivent apporter des preuves.
Nous croyons, hein, nous espérons que les accusateurs ont les preuves pour justifier ce qu'ils disent.
Est-ce que j'ai dit Jacques, vous savez, Djouma, où vous avez la possibilité
d'éviter ça.
Non, c'est-à-dire que de contester, ils n'ont qu'à seulement amener les preuves. Ouais. Moi, je voulais rebondir sur l'aspect dont tu as fait cas tout à l'heure.
Les difficultés faites aux partis de se retrouver, de se réunir.
Non, sincèrement, ça, je voudrais appeler solennellement le président de la République.
En personne.
Oui. Il faut ouvrir un couloir de discussion avec votre opposition. Permettre à cette opposition-là de pouvoir mener librement les activités. C'est vrai que des fois, on a parlé de l'histoire des djihadistes, qu'il est impossible aux gens de se rassembler. Mais quand vous prenez le cas de Brodahomé, c'est des responsables qui veulent le fait se rencontrer. On n'a pas appelé une foule de venir se retrouver. Donc je crois qu'il faut faire attention. N'opprimez pas trop les gens. Parce que vous savez, lorsque vous opprimez les gens, vous les laissez dans une chambre donnée, à un moment donné, même si vous envoyez par exemple les gens de l'aide et logeux là-bas, vous, ceux qui vont rentrer ont le risque d'être blessés également. C'est comme un mouton. Un mouton qu'on embrigade, qu'on ne veut pas que le mouton la sorte. Du moins, le mouton là, je vous dis, trouve l'espace de pouvoir sortir. Vous qui êtes au portail, si vous ne savez pas faire, le mouton va vous blesser. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui qu'il y ait un couloir de discussion entre l'opposition et le parti au pouvoir. Je crois que nous tous, nous gagnerons. Il ne faudrait pas que les gens pensent que, parce qu'aujourd'hui on entend les gens parler, que non, devant il n'y a plus rien, c'est un boulevard. Attention, attention. Le feu Yadema disait toujours dans ce pays que qui connaît par exemple le Togolais, quand vous faites quelque chose et le Togolais se tait, savez que ça ne va pas. Il faut faire très attention. Il faut réfléchir à mille reprises.
Oui, Jacques, on te dira qu'à propos de couloir, il y a la CENAP, la concertation des acteurs politiques.
Oui, je ne refuse
mais,
pas.
Oui, oui, non, mais non, je rappelle ça. Qu'il y a quand même cette instance-là. Mais il y a certains partis qui ne participent pas à la CENAP. C'est à cela que j'adhère à ton appel. C'est que sûr. Le gouvernement déverrouille le champ,
que les
partis politiques, à partir du moment où ils satisfont
bien sûr.
Aux normes réglementaires, qu'on les laisse mener leur activité.
Et ça, vous savez,
pour que les gens n'aient pas l'impression qu'on les comprime.
C'est la vitalité de la démocratie même là. Ça, c'est-à-dire que c'est une très bonne chose lorsqu'il y a dynamisme dans un pays. Le parti au pouvoir, par exemple, fait ses activités, l'opposition également. C'est une bonne chose. Non, mais du moment où vous refusez les gens, même une petite réunion, lorsque les gens veulent se retrouver, vous refusez. Mais vous voyez, quelque part, franchement, il faudrait que le président puisse voir son ministre de l'administration territoriale. Parce que c'est lui qui donne les autorisations. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, lorsque les gens. C'est comme, par exemple, les gens veulent, par exemple, se retrouver dans une église ou bien dans une mosquée. Vous les interdisez de se retrouver. Mais ça n'a pas de sens. Après tout, c'est des Togolais. C'est des Togolais, ils sont opposants. Donc, ce n'est pas des gens qui sont venus d'ailleurs. Vous les connaissez. Et qui dit opposition, dans presque tous les pays organisés, les renseignements de ces pays la connaissent un peu. Donc, je crois que.
Et tout ce que nous demandons aux organisateurs, c'est de se conformer à la loi
c'est tout.
Sur les manifestations publiques. Et que le gouvernement laisse la liberté de manifestation s'exprimer dans la responsabilité des uns des autres. Terminons rapidement par le gouvernement qui s'est retrouvé dans le Grand Cloto le vendredi dernier, d'abord à dans le canton de Tauvé. Le chef de l'État avait procédé à la pose de la première pierre de ce centre de mécanisation agricole, mais qui s'invite sur le terrain des engrais et bien d'autres choses. Et puis le gouvernement s'est retrouvé ensuite à Adeta pour un conseil des ministres dont Togo Press nous donne l'essentiel. Deux décrets relatifs au transport routier et à la politique forestière ont été pris. Le gouvernement, entre autres, a procédé à la régulation de l'exploitation des taxis, taxis-motos et tricycles, comme je l'ai dit il y a un moment. Alors, quelqu'un pour réagir sur le centre d'excellence de Tauvé ou bien le conseil des ministres. Nous allons en parler dans les réactions avec les auditeurs.
Mais moi, je voulais réagir rapport au conseil des ministres. Oui, Laïa. Vous savez, Sas, je voudrais une fois encore inviter le gouvernement. Vous voyez ce qui s'est passé à Pelé la fois passée. Nous n'avons pas eu d'image de ce conseil des ministres. Et ce conseil, c'est finalement nos consoeurs et nos confrères de la TVT qui ont tenté de nous expliquer un peu ce qui s'est passé.
Mais la TVT a eu les images de l'arrivée du chef de l'État.
Non, je parle du conseil. C'est-à-dire que le conseil même.
Oui.
On n'a pas eu les images. Et c'est nos consoeurs, les confrères de la TVT qui se sont débrouillés. Et puis vous avez vu comment même le compte-rendu, c'est comme si, bon, on a banalisé ça, quoi. Je crois qu'il faudrait... Nous sommes dans un État organisé. Un État organisé et nous avons les institutions. Nous avons notre ministère de la Communication. Il y a les médias d'État. La TVT, Radio Lomé, Togo Press et Atop.
Et puis il y a nous.
Et voilà, les privés. Bon, on te dira qu'il n'y a pas les moyens pour t'amener là-bas. Mais tout comme ça...
Les confrères y étaient, hein. Des confrères du privé étaient aussi bien à Tauvé qu'à
oui,
l'État.
Mais je parle du conseil, le compte rendu. Vous voyez, donc il faudrait, moi je voulais inviter le gouvernement et surtout notre ministre de la Communication. Lorsque vous sortez par exemple à l'intérieur comme ça, il faut valoriser nos confrères de ces localités-là. Comme on le fait ici à Lomé. Lorsqu'il y a conseil, on invite certains journalistes pour aller pour le compte rendu. Il faut valoriser également les confrères. Il y a les confrères qui sont à Palimé là-bas.
Un peu partout.
Voilà, qu'on pouvait inviter. Venu couvrir effectivement le compte rendu
la
de ce conseil.
La restitution par l'un des porte-parole du communiqué.
Justement. Et puis l'autre aspect, il faudrait aujourd'hui, vous savez, avec la technologie, mais ça va vite. Je suis souvent un peu gêné, peiné, qu'il y a des activités qui se déroulent à l'intérieur du pays et qu'il faut 2 jours, 3 jours avant que TVT ne rende le compte rendu. Il y a les faisceaux aujourd'hui. Je sais que la TVT fait souvent le direct. Et si la TVT ne fait pas le direct, et qu'on mette les moyens à la disposition de la TVT, parce que c'est la chaîne nationale.
Il est midi passé, souffre que je te coupe là, que nous allions à la pause. Et sûrement que les auditeurs s'impatientent pour composer le 22, 21, 33, 74 ou le 91, 36, 63, 75 pour co-animer avec nous. 93.5. Eh bien, nous avons parlé de sujets divers avec les trois confrères, Jacques, Harry Miaou et Didier. À présent, nous passons la parole, vos commentaires, vos questions. Nous prions juste de vous en tenir au sujet que nous avons discuté. Oui, le premier auditeur, bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Oui, juste pour porter à la connaissance de nos autorités. On ne peut pas toujours régler chaque différend avec la force. C'est l'impression que moi j'ai. On a l'impression que quand on veut régler un problème, c'est toujours avec la force. Regarde ce qui s'est passé avec Sergio Menotti. Ça ne nous honore pas. Mm-hmm. Ça, on peut régler ça à l'amiable. Jusqu'à Menotti, un joueur était sur les réseaux sociaux. Franchement, ça pose un problème.
Merci.
Et pour la première. Pierre posé à chose
à Tauvé, oui.
Oui, franchement, il y a un auditeur qui fustige là, souvent là. Et c'est Azanou, un homme d'Azanou. Il y a une pierre qui est posée depuis, franchement, c'est pas réalisé, le projet n'est pas réalisé. C'est Bozambo qui fustige souvent. Et même demande qu'on vienne enlever cette première pierre posée là.
Je crois que le chef de l'État sait pourquoi il est allé poser cette pierre-là à Tauvé et que d'ici quelques temps, on va voir ce centre sortir de terre. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour, oui. Le plateau.
C'est Benoît Dagouesa.
Merci.
Eh bien, nous vous écoutons.
Oui, je voulais dire, quel est l'intérêt, hein, l'intérêt, je ne vais pas parler du conseil des ministres qui s'est tenu. J'ai oublié le nom du village.
C'était Adeta dans le Pelé.
Oui, merci beaucoup Adeta. Le village, le lieu de la présence, le village de la présidente de l'Assemblée. Comme on l'a vu derrière le chef de l'État en courroubain, en se précipitant, je ne vois pas l'intérêt de nous les Togolais, le bain de foule du président de la République. C'est le travail qui, comme vous l'avez dit, il faut le dire, la TVT c'est une chaîne nationale. Ce n'est pas une chaîne gouvernementale bien d'unir. Et je ne sais pas pourquoi les gens, le motif de ce bain de foule. Et à d'état là, il y a une route, il y a des hôpitaux avant l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, il n'y avait pas les hôpitaux, et après à l'arrivée du chef de l'État, il y a les hôpitaux, il y a les bonnes routes. Pourquoi ils appellent, parce qu'ils n'ont jamais vu le chef de l'État. Les choses qui se passent sur la TVT, moi j'interpelle le ministre de la Communication à revoir le journal même. Merci et bonne journée.
Merci beaucoup. Quel est le bien fondé de ce conseil des ministres délocalisé à Adeta? Nous aurions aimé avoir un porte-parole du gouvernement pour nous le dire. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour, Essas.
Oui.
C'est M. Kofi.
M. Kofi.
Oui.
Nous écoutons.
J'aimerais aborder, mais c'est que le premier auditeur. Il ne faut pas toujours qu'on fasse tout avec la force. Le ministre de la Sécurité doit encore beaucoup travailler. Parce qu'il y a beaucoup de fois de l'ordre qui aujourd'hui font un bon travail, un travail impeccable. Mais dans leur rang, il y a encore des bébés galeux qui pensent qu'on peut tout faire avec la force. C'est pas bon. Mais c'est ça. Est-ce qu'on peut arrêter un monsieur et ses enfants parce qu'ils sont partis prendre des photos de leur décor que quelqu'un détruit? Mais les gendarmes font ces gendarmes au 21e siècle.
Bon, nous rappelons que le Togo est un état de droit. C'est inscrit dans notre constitution et nous réaffirmons la Déclaration universelle des droits de l'homme et bien d'autres textes. Mais pour ce que vous venez de dire là. Ce que vous disiez tantôt pour les images, je ne sais pas trop, mais je sais également qu'il y a le droit à l'image. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Notre ami
l'épargne de monsieur dans son champ. Parce qu'on dit qu'un objet se pourra payer le terrain.
Oui.
Le monsieur parti prend des images des palmiers qu'on est en train de détruire.
Oui.
Et c'est le gendarme qui l'arrête. Parce que c'est leur supérieur qui a acheté le terrain.
Ah. Vous savez ça normalement, monsieur? Ça s'est passé où ça?
Dans la commune de 3, au village de Haoukoussimi.
Et je pense
c'est la gendarmerie de Bévé qui font ça.
Oui, je pense que pour des choses comme ça, le citoyen que nous sommes, nous devons également saisir la justice, aller porter plainte. On peut porter plainte pour abus d'autorité, même d'un commissaire de police, même d'un chef de brigade de gendarmerie. Porter plainte pour que ça fasse date et qu'on voit comment nos institutions vont fonctionner, s'il vous plaît.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
J'aimerais appuyer M. le Président de la CNDA de continuer à faire ce bon travail qu'il est en train de faire. Que les sessions commencent pas à poser des actes.
Merci.
Et toujours marcher dans le pays.
Merci beaucoup, l'ami Kofi. Oui, le suivant. Oui, Jacques Jacouti, nous disions tantôt qu'il faudra que nous nous comportions en citoyens. Si nous estimons que nos droits sont brimés, mais allons devant les recours que la République nous offre.
Je suis d'accord avec vous, Sas. Et quand vous prenez souvent le Togolais a tellement peur. Sas, sortez un peu lorsque la pluie s'annonce. Si vous voyez comment les gens conduisent à Lomé, un jour je me suis posé la question, ou bien j'ai eu peur quoi. J'ai dit, ou bien il y a eu une attaque à Lomé. Ça courait de partout. Alors que chez nous, par exemple, quand la pluie s'annonce, c'est une joie.
Oui, parce qu'il ne pleut pas beaucoup chez toi là-bas.
Non.
Au grand nord du Togo. Oui, l'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour, Sass.
Oui.
Comment est-ce que vous allez?
Ah, comme vous nous écoutez.
Oui. C'est Monsieur Fofo.
Monsieur Fofo.
Oui, oui.
Vous appelez de
Tokoe Ramko.
Tokoe Ramko, tout à côté ici.
Oui, oui.
Ok, nous écoutons.
Ça, vous ne connaissez pas le Togo. Est-ce que c'est facile à un simple citoyen de porter plainte contre une autorité? au Togo. Mais là,
il faut que nous commencions un jour.
On va commencer par qui est-ce qui va commencer?
Vous pouvez être le premier à commencer.
Un soldat. Tu as un problème avec un simple soldat. Tu ne peux pas dormir dans ta maison. Un soldat, un homme de troupe, qui est payé par l'agent du contribuable. Tu ne peux pas dormir. Et on va porter plainte contre une autorité dans ce pays.
L'ami Fofo.
Oui.
Vous avez la constitution de notre pays. La constitution togolaise nous garantit nos droits et nous offre des recours.
Vous savez que on a dit dans ce pays que l'accord n'engage qu'au signataire.
Non. Ça c'est une anecdote.
Est-ce que cette constitution est respectée au Togo?
Mais il vous appartient, Fofo, à vous et à moi de faire respecter la constitution. Si nous-mêmes nous démissionnons,
moi, je vais rester vivant avec mes enfants. Hein.
C'est cette résignation qui nous conduit tout droit dans le mur. Nous sommes des peureux, si nous avons peur, si nous n'avons pas la force de connaître nos droits et de les exiger, finalement, arrêtons de nous plaindre.
Le droit est là. Est-ce que l'autorité applique le droit?
Amenons l'autorité, l'ami Fofo, amenons l'autorité à appliquer le droit. En tout cas, moi, j'y crois. Le suivant?
Non, oui. Ça, je crois qu'il faut croire.
Oui, arrive.
Comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous. Il faut que le Togolais puisse commencer par croire. Vous savez, il y avait eu une panne de véhicules des militaires un jour. Les militaires sont sortis, ils ont commencé par marcher. Il fallait voir le
Allô?
Quartier.
Oui.
Le quartier s'est vidé.
Allô? Allô? Oui, bonjour.
Bonjour, c'est pour participer à l'émission.
Oui, vous y êtes, ça, monsieur?
Je suis à Sokodé.
À Sokodé, hein. Votre nom, s'il vous plaît?
C'est Paul.
Paul.
Oui.
Un Paul qui appelle de Sokodé, ça c'est bien ça. Eh bien, nous vous écoutons.
S'il vous plaît, monsieur Sass.
Oui.
Oui. Monsieur Sass.
Oui, nous vous écoutons.
L'intervenant qui vient d'intervenir là, vous parlez de la constitution au Togo. Est-ce qu'il y a la constitution au Togo? Est-ce qu'il y a les tests de la constitution au Togo? Il a bien raison de dire que non, que si quelqu'un, bon, tu as affaire à une autorité, tu ne peux pas te plaindre. Tu vas te plaindre contre qui? Et même il change la constitution. Et c'est quand tu vas aller te plaindre, qu'est-ce qu'on va te dire? On ne va que te renvoyer. Hein?
Ok. Et finalement, l'ami Paul. Je crois que c'est un appel internet, il y a décalage. Alors finalement, si quelqu'un viole nos droits, nous faisons quoi?
C'est ça, mais c'est ça. Tu ne peux pas te plaindre, tu vas te plaindre contre qui?
Eh là, finalement, nous faisons quoi, l'ami Paul? Si on viole vos droits, vous faites quoi? Chade, Arimiaou, je voudrais que... Okay, on prend d'abord l'auditeur et puis je voudrais que tu répondes à notre ami Paul. Oui, l'auditeur en ligne, bonjour.
Mon directeur, bonjour.
Papa Sibidi.
Bonjour, mes deux fils, Djakouti et Arimiaou et les autres.
Il y a Arimiaou, Djakouti et les autres. Papa Sibidi, nous notons.
Ouais. Merci beaucoup, papa.
Merci, papa Sibidi.
Merci, papa.
Nous sommes dans les autres.
Djakouti est mon fils gourmand. Okay. Je suis gourmandien, je suis papa là. Je ne dénie pas les autres parce que je ne connais pas leur nom.
Ah, c'est le nom qu'ils ne connaissent pas. Okay. Didier Assoba.
Didier Assoba.
Monsieur Chasse.
Oui.
Mon directeur, Abba. Si le Kotogoli dit Abba, c'est que c'est grave. Mais quelle institution? Quand vous avez des problèmes, vous pouvez vous parler de la condition. Je suis d'accord. Même un maire, vous l'appelez, il ne prend pas. Et le colonel, tout ça là. Nos responsables, rares sont ceux qui, et vous allez aller vous plaindre à la justice. Excusez-moi, ce n'est pas pour réveiller les gens qui dorment. Mais le feu, Abdou Asuma, paix à son âme, quand nous sommes ensemble, devant sa cour, c'est de un monde fou. Il semble que les gens sont allés se plaindre vers la présidente, et il a dit qu'il ne va plus recevoir les gens. J'ai dit, mon président, c'est parce que vos gens là ne jugent pas bien que les gens viennent vous déranger à la maison. Vous voyez, Merci beaucoup.
Je vous en prie. Alors, Arimiaou, nous notons que un dernier auditeur.
Allô.
Oui.
Ici.
Je
n'ai pas beaucoup d'unité.
Oui.
Je n'ai que 100 et quelques.
Ok.
Allez, allez vite.
Allez-y.
Ouais, voilà. Les gens prennent le plaisir de piétiner les lois de la République à volonté. Vous voulez quoi? Et puis, rien ne les effraie. Ils savent pas, ils savent que on va pas porter plainte contre eux, qu'on va jamais porter plainte contre eux. Mais moi, j'exhorte les Togolais à porter plainte contre l'État, contre les gouvernants.
Merci beaucoup.
Pour tout ce qu'on endure. Moi, là où je suis là, j'avais dit la dernière fois que je suis tombé dans un caniveau découvert. J'ai des problèmes de cou et de l'amadoula. Ils ont même pas, ils ont pas daigné envoyer des quatre-artillères dessus. Hier encore, avant-hier, je suis sur cette route-là et mon cas s'aggrave. Mon cas s'aggrave parce que les routes sont terribles. Voilà. Il faut qu'on commence par porter plainte. Les mandats non limites, tout le reste.
Merci.
L'argent dilapidé.
Merci. Hein,
jusqu'à ce qu'on soit si pauvre.
Merci
ils
beaucoup.
Tout l'argent. Si... Ils ont tout confisqué.
Eh bien, nous notons Arim Yaou, Jacques et Didier que soit, nous sommes totalement ignorants des lois qui nous protègent, ou bien nous nous résignons nous-mêmes devant la fatalité.
Non, bon, je ne crois pas qu'il faut dire que les gens sont ignorants. Il faut suivre ce que les gens sont en train de dire et être honnête. Vous voyez que le Togo a dû aller récemment à des réformes de la justice. Les gens, quand vous les écoutez, ils se réfèrent à ce qui avait été. Parce que hier au Togo, il n'y avait pas cette évidence que quelqu'un puisse se plaindre, lui le plus faible contre le plus fort et qu'il gagne. Ça, même à la justice, les gens en sont conscients. Tout citoyen togolais sait qu'il fut des époques, vous avez affaire à quelqu'un qui a des relations, quelqu'un qui connaît des gens, il vous tape la poitrine en vous disant, vous me connaissez, vous ne pouvez rien, allez vous plaindre où vous voulez, et ça marchait. Et je voudrais que les Togolais qui nous écoutent aujourd'hui, notamment celui qui a appelé de ce côté, et tous ceux qui sont là comprennent que le Togo marche. C'est une nouvelle marche. Et la justice également fait son boulot. Moi, j'ai vécu des cas. Et c'est par rapport à ces cas que j'encourage tout citoyen qui est brimé quelque part de se plaindre. La justice a évolué. Les choses ne sont plus comme hier. Je connais quelqu'un qui est ami, entre parenthèses, à quelqu'un, à la justice, et qui menaçait tout le monde. Et qui dit... Vous savez que tel, c'est mon ami. En tout cas, quand je vais faire ceci, vous allez voir. Mais il n'a pas pu aboutir. Ça veut dire que le droit se dit. Donc, vivement, que tout citoyen oublie que ce qui se faisait hier continue. Aujourd'hui, si quelqu'un a des problèmes, qu'il se plaigne, il aura la raison.
De la CNDH, oui? C'est des cas comme ça que la CNDH a instruit et dont nous parlons. Même s'ils n'ont pas raison aujourd'hui, au moins notre plainte va faire cas de jurisprudence.
Mais la preuve, regardez ce que Assivito fait actuellement.
Oui.
En allant vers la cour de la CEDEAO.
Oui.
Ils ont toujours eu gain de cause, c'est parce qu'ils ont porté plainte. S'ils ne l'avaient pas fait, ils n'auront pas gain de cause. Donc il faut, comme vous l'avez si bien dit ça, il faut que le Togolais ose. Si vous n'osez pas, vous n'aurez pas gain de cause. Vous voyez, donc quand vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays, mais il faudrait que le Togolais ose. Il faut que le Togolais puisse sortir effectivement de cette peur-là. Lorsque nous avons peur, qui va s'occuper de vous? Personne ne va s'occuper de vous. Donc sortez de cette peur. Et aujourd'hui, comme Arim Yaou l'a dit, les choses ne sont plus comme avant. Hein. Attention, si vous croyez qu'on est encore dans les années 90, non, on a dépassé cette étape-là.
Merci Didier.
Oui, naturellement, ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il faut que chacun prenne son courage à deux mains. La résignation n'a jamais rien construit. Si les gens disent est-ce que l'autorité respecte la loi est là, si l'autorité ne la respecte pas, amenons l'autorité à respecter la loi. C'est un peu comme on nous fait également généralement le procès des journalistes qu'il y a des choses où nous ne disons pas. Si on n'est pas au courant, on ne peut pas en parler. Donc de la même façon, si l'autorité qui est garante de la loi, la justice qui est garante de la loi, n'est pas au courant d'un certain nombre de violations de la loi, ne va pas réagir. Donc au moins, portons plainte. Et comme tu l'as dit, ça fera date, même si la justice n'instruit pas ici, mais des gens qui n'ont pas eu gain de cause ici ont eu gain de cause devant d'autres juridictions qui ont condamné le Togo. Et donc, portons plainte, ayons cette culture-là de porter plainte et évitons de dire que qui peut gagner contre une autorité. Une autorité, ça reste un humain avant tout.
Je comprends qu'il y a un ministre qui a vraiment du boulot. Tu le connais? c'est Christian Trimoy, ministre des droits de l'homme, des relations avec les institutions de la République, chargé de la formation et la citoyenneté. Il a vraiment du travail pour former des citoyens qui connaissent leurs devoirs et leurs droits et qui sachent où porter plainte pour se voir restaurer dans leurs droits.
Bon, je crois que les députés doivent l'aider en accordant à son département des moyens conséquents, parce que des ministères comme ça, c'est des ministères sous-financés. Ouais. Disons les choses par
des
leur
moyens,
nom.
Donc d'abord un ministère digne de ce nom.
Oui, un cabinet digne de ce nom, plus du personnel, plus de l'argent, pour véritablement faire ce travail, parce qu'actuellement ce n'est pas le cas.
Ton carton de fin d'émission.
Je n'ai pas de carton.
Merci de passer. Là, il y a Jacques.
Non, je n'ai pas de carton. Juste souhaiter une fois encore beaucoup de succès à nos enfants et par rapport aux examens qui commencent demain.
Merci. Et Arim Yaou ?
Pas de carton.
Eh bien, le club de la presse voudrait décerner un carton vert à un ministre. Nous nous plaignons souvent des ministres. Ils sont loin. Papa Sibiti vient de le dire, même quand on les appelle, ils ne décrochent pas. Mais ce ministre, qui est en fonction depuis octobre 2020, à chaque fois qu'il est au pays, c'est lui-même qui amène ses enfants à l'école. Ce ministre qui continue à amener ses enfants à l'école depuis plus de 3 ans qu'il est en fonction, c'est un signe pour montrer qu'il n'a pas oublié qui il était et qu'il peut redevenir demain. Seulement, je ne sais pas avec quel véhicule il amène ses enfants à l'école. Quand on connaîtra la plaque du véhicule, nous en parlerons aussi, parce que notre bouche n'a pas de caleçon pour tout ce qui est vérité. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons demain, mardi, à 11h, si Dieu le veut, et prions que Dieu le veuille.